Gérard Dubé, professeur de sociologie à Télécom École de Management. J'enseigne donc en école de management et d'ingénieur dans le cadre de l'Institut Minitélécom. Et je suis aussi chercheur au CEDCOPRA, Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques de l'Université de Paris 1. Et je travaille depuis maintenant, je sais pas, peut-être une trentaine d'années, pas loin. En termes de recherche, je travaille sur les environnements de travail très technologisés ou très technicisés, je sais pas comment dire. J'ai beaucoup travaillé sur les processus d'automatisation et d'informatisation, dans un premier temps dans le domaine de l'aéronautique, civil et militaire. Et par la suite, j'ai travaillé sur un tas d'autres objets et technologies numériques, comme dans le domaine de la santé, sur la robotique d'assistance aux personnes. Dans le domaine de la sécurité, des technologies sécuritaires, j'ai travaillé sur l'identification biométrique, technique d'identification biométrique. Et actuellement, je participe à un programme ANR de 3 ans minimum sur la cobotique industrielle.
Une question assez générale, au niveau de la perception dans la société, la perception qu'on peut avoir des robots semble avoir évolué. Comment est-on passé d'une vision assez négative, effrayante, à une vision plus positive, enthousiasmante ?
Difficile de répondre à votre question, parce que je ne sais pas si on est passé à une vision moins effrayante, je ne sais pas en fait. Il y a un discours autour de ça, effectivement, qui tente à faire passer l'idée que les robots, maintenant, sont devenus nos amis, et qu'ils vont entrer de plus en plus dans notre vie quotidienne, qu'ils vont devenir nos compagnons de vie. Mais en fait, on a très peu de preuves, de faits qui pourraient attester de cette réalité-là. Alors, il y a des robots humanoïdes qui sont utilisés maintenant, achetés par des EHPAD, dans des maisons de retraite. Sherry Turkle, la psychologue américaine, a beaucoup travaillé là-dessus, avec un regard très américain et très, très psycho. Mais en fait, on a assez peu et même pratiquement pas, de données brutes de retour d'expérience. Il y a beaucoup d'effets d'annonce pour lever des fonds. Il y a beaucoup de financements européens sur des projets justement d'assistance robotique, de robots compagnons. On appelle ça aussi robotique personnelle d'assistance. Mais la plupart du temps, ça s'arrête à des démonstrations en showroom ou à des prototypes. Donc très difficile de faire la part des choses. Donc, est-ce que c'est moins effrayant ? Moi, ce que j'en ai vu dans le cadre d'un ANR autour de la robotique personnelle pour des personnes atteintes de troubles cognitifs, je suis pas convaincu de ça. J'ai assisté à des effets qui peuvent être aussi très déstabilisants et très déstructurants pour ces personnes. Donc après, on nous dit, alors on insiste beaucoup sur le handicap, sur ce que ça pourrait apporter pour un certain nombre de personnes atteintes de handicap, pour les personnes autistes. Encore une fois, j'en sais rien, je pense que il faut aller voir d'un peu près ce qui se passe, essayer de vérifier tout ça, c'est ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Quels sont les fondements imaginaires de l'automatisation ?
Ah, c'est une question tellement vaste que je serais bien en mal d'y répondre en quelques minutes, et même en quelques heures, et même en quelques jours peut-être. Il est sûr qu'il y a un imaginaire attaché à l'automatisation, mais il faudrait peut-être plutôt parler des automatisations, ou des automates. C'est pas pour noyer le poisson que je dis ça ou pour me dérober à la question, mais si on prend, en tout cas dans l'ère européenne, les automates de Vaucanson, ils s'inscrivent dans des imaginaires différents. Bah, les automates de Vaucanson, ça a été aussi bien des métiers à tisser automatisés que des machines comme le canard digérateur ou le joueur d'échecs, le joueur de flûte aussi je crois, qui étaient des machines destinées à susciter l'émerveillement un petit peu. Je dirais pas que c'était des machines à la Méliès, mais presque, ou plutôt Méliès s'est sans doute inspiré un peu de ça. Donc ils remplissaient évidemment, ils répondaient à des attentes et ils remplissaient des fonctions très différentes. Les automates destinés à se substituer au travail des tisserands, enfin une partie en tout cas de l'activité des tisserands, c'était une demande qui émanait de la monarchie, du pouvoir royal, de Louis XV je crois. Il faudra vérifier tout ça par des historiens des techniques qui seront bien plus pointus que moi. Mais ils répondaient à une demande du pouvoir pour affaiblir les corporations de tisserands en particulier qui étaient très puissantes. Donc là, il y avait derrière ça vraiment un projet politique qui passait par l'automatisation. Il s'agissait bien d'oter une partie du pouvoir des artisans en extrayant leur savoir-faire. Et dans l'autre cas, il s'agit de machines qui ont un rôle un peu plus spéculaire, quoi, destinées à nous peut-être interroger les frontières de ce qu'on appelle humain, à nous étonner tout simplement, à susciter des émotions. Donc déjà, dès le départ, si on prend ce point de départ-là, parce que des automates, il en existe évidemment depuis la plus haute antiquité, hein, chez les Égyptiens, les Grecs, bah déjà là, on rencontre des imaginaires qui sont assez dissemblables. Voilà ce que je peux répondre. On reviendra peut-être sur ce thème ultérieurement.
Quelles sont les conditions sociales qui favorisent l'automatisation de la société ? Et plus encore, le transhumanisme, qui pourrait favoriser le transhumanisme ?
Alors, l'automatisation de la société, le transhumanisme, pour moi, c'est deux choses un peu distinctes. Enfin, le transhumanisme, je vais commencer par là, je ne sais toujours pas trop ce que c'est. Enfin, évidemment, j'ai une petite idée, je lis des choses, comme tout le monde. Hein. J'ai peur que ce soit parfois une façon de... Ce n'est pas que ça, certainement, mais une façon d'aimanter la critique un peu. C'est-à-dire de focaliser, de capter l'attention de la critique et de la canaliser sur ce qui est pour l'instant un discours utopique ou dystopique, selon qu'on y adhère ou pas, et qui nous éloigne peut-être de réalité, de phénomènes, de processus plus proches de nous, qui touchent directement notre vie quotidienne. Alors, j'ai un peu peur de ça. Il y a un aspect très marketing, extrêmement marketing dans le transhumanisme, qui permet évidemment de lever aussi des fonds. Hein, c'est une reprise quelque part, c'est un petit peu de l'évolutionnisme technique réchauffé, avec cette idée qu'il y a un devenir technologique de l'homme inéluctable, qui est inscrit depuis les origines de l'homme. Donc, on retrouve un tas de thèmes de l'évolutionnisme technique tel qu'il était en vogue au 19e siècle. Ou même après, autour de l'idéologie du progrès par la science et la technique. Donc, il y a beaucoup de reprises de ces thèmes-là, de réactualisation, une tentative de régénérescence de ces thèmes. À un moment peut-être justement où tout ça s'essouffle, où l'idéologie du progrès n'est plus en phase avec le vécu, les expériences vécues, les attentes de beaucoup de citoyens. Donc je suis un peu prudent avec ce transhumanisme. Il y a des discours, il y a des critiques... Jean-Michel Beignet, des gens comme ça qui disent des choses très bien, très intéressantes là-dessus, il faut le faire. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai peur de me perdre là-dedans, quoi. Que ça devienne une sorte après de métadiscours.
Vous dites en gros que le transhumanisme, ce serait un petit peu l'arbre qui cache la forêt et qu'en cristallisant la critique sur son sujet, subrepticement, d'autres technologies s'immisceraient dans nos vies. Vous pensez auxquelles ?
Je pense à tout ce qu'on utilise déjà. Hein. Les écrans, le numérique, les téléphones, les applications mobiles, des premiers développements aussi de la domotique, la robotique, je dirais que c'est un peu moins, paradoxalement, on en parle beaucoup, mais c'est ce qui est peut-être de moins avancé. Ça avance aussi vite, mais donc derrière ce discours transhumanisme, on développe des segments de technologie, des briques technologiques qui, elles, peuvent trouver des applications très concrètes et très rapidement et qui agissent sur nos vies. Voilà, ça me semble important de faire porter l'effort là-dessus. Parce que c'est le plus évident, c'est le plus près de nous, donc c'est aussi déjà le plus familier. Alors peut-être que ce discours-là accompagne ces moments-là, où le légitime, ou je sais pas, où apporte une sorte de caution justement imaginaire ou utopique à ça. Mais voilà, je voulais faire cette précision avant de...
Quels sont les effets de l'automatisation, aussi bien au niveau de la dimension collective de nos existences que dans nos vies concrètes, dans nos vies personnelles ?
On pourrait donner... des milliers d'exemples de ça. Alors, il y a l'automatisation dans le travail. Ça, je pourrais vous en parler pour l'avoir étudié à plusieurs reprises sur différents terrains, en particulier aéronautique. Là, je parle de l'automatisation dans sa version numérique, la plus récente, où il s'agit toujours... Il y a toujours un processus quand même identique, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'observer, de décomposer, de mesurer, de quantifier une activité, de la décomposer. Donc c'est un processus aussi toujours assez taylorien, hein, que Taylor se sont inspirés aussi d'autres penseurs du travail avant lui. Prendre ces données, les prélever, les extraire, les transférer, enfin, les stocker et en extraire des modèles. Taylor disait des schémas opératoires standardisés qui deviennent ensuite des normes qui vont s'imposer aux travailleurs et qui vont imposer aussi des rythmes de travail, et qui se traduisent en gains de productivité. Ce processus-là d'automatisation, on va le retrouver dans presque tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, ça touche des domaines qu'on croyait jusqu'à présent à l'abri, parce que ça mobilisait des ressources cognitives ou relationnelles importantes. Donc maintenant, ça touche aussi les domaines de la santé, le domaine médical, mais aussi le journalisme. On nous vante aujourd'hui les mérites d'algorithmes capables d'écrire à partir de bases de données de plus en plus conséquentes, en tout cas des articles. Bon, voilà. Alors comment ça transforme la vision qu'on a des médias, de la presse, en quoi ça modifie ce que c'est qu'un article de presse, par exemple. Pour un pilote d'avion, domaine que je connais mieux, un pilote d'avion aujourd'hui, c'est un gestionnaire de système. Il surveille, il contrôle le bon fonctionnement de process à partir de données qui lui sont données par le système lui-même et qui s'affichent sur des écrans. Donc la question centrale, c'est sur les interfaces. Voilà, on n'a plus accès à cette réalité des systèmes techniques qu'au travers des interfaces. Or, les interfaces ne montrent de ce qui se passe dans ces systèmes que ce qu'on a jugé utile de montrer. Alors, je dis « on », qui est ce « on » ? Alors, c'est toute la question. En tout cas, ce qu'on observe, c'est bien ce phénomène de délégation, de capacité, de compétences, de savoir-faire et de connaissances, qui concerne donc aujourd'hui presque tous les domaines de compétences et de connaissances, donc les activités également dites intellectuelles ou cognitives, ce qui n'était pas le cas, évidemment, à l'époque de Taylor. Donc, il y a une extension du domaine de l'automatisation. Et ce qui m'intéresse, moi, la question qui me paraît importante, c'est quel est le statut des opérateurs de ces systèmes ? À quel type d'humain ça nous prépare ? Il ne s'agit pas d'opposer l'humain à l'inhumain ou de dire, voilà, il y a la technologie d'un côté, l'intelligence artificielle et l'humain de l'autre côté. Non, c'est derrière ça, il y a la production d'un nouveau type d'humain, mais différent de celui qu'on a connu ou qu'on connaît aujourd'hui.
Justement, dans cette droite ligne, quel est à vos yeux le plus grand danger ? En fait, un cas de figure où les robots prendrait l'ascendant sur les humains, ou plutôt une vision du futur où les hommes se comparent et s'identifient aux robots.
Je ne sais pas si on pourra un jour s'identifier aux robots. Les seules personnes que je connaisse qui s'identifient un peu aux robots sont peut-être certains roboticiens, et encore. Il y a eu récemment une interview de M. Chatila, qui dirige un grand laboratoire de robotique à Jussieu, qui quand même faisait la part des choses, calmait un peu les ardeurs de certains. Rappelait qu'en robotique, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Que ça reste un schéma extrêmement déterministe, cadré, que ce n'est pas parce qu'on a une machine, soi-disant apprenante, a vaincu le champion du monde de Go, que on va pouvoir tout faire, parce qu'on est dans un espace hyper réglé, celui du jeu, et quelque part assez prédictible. Donc la réalité, la vie humaine, et même la vie professionnelle, l'activité professionnelle est infiniment plus complexe et hétérogène que ça. Donc on est quand même très très loin de... Donc l'identification, je ne sais pas. Quelle était la deuxième partie de votre question ? Ah oui, c'était si. Alors au conditionnel, si on se projetait dans une sorte de robotisation généralisée, donc dans un avenir plutôt dystopique, c'est ça que vous voulez me faire dire ? Alors je sais, moi je suis pas, j'adhère ni aux grandes utopies ni à ceux qui dénoncent les côtés dystopiques de tout ça. Je pense que ce qui a redouté le plus, c'est... Alors, j'ai pas formalisé ça vraiment, j'ai pas conceptualisé ça, mais ça sera plus donc intuitif, ce que je vais vous dire. C'est un état de désorientation, de perte de repères, et qu'on pourrait comparer à une forme de chaos. C'est un état d'incommunicabilité soudain, de confusion. C'est peut-être ça qui pourrait se profiler. Quelque chose qui pourrait, alors là, je vais faire un truc un peu osé, finalement, un certain nombre des symptômes du syndrome Alzheimer pourraient, alors comme analogie ou comme métaphore, pourraient nous faire penser à ça. C'est-à-dire perte de capacité à se repérer par soi-même dans son environnement, perte des prises sur son environnement, qui crée un état évidemment d'incertitude extrême, mais la mauvaise incertitude, parce que l'incertitude c'est positif, c'est ce qui permet de créer, d'inventer, d'imaginer, c'est la liberté. Mais là, une incertitude non négociable qui nous tombe dessus un peu comme une fatalité et qui est source d'angoisse et en tout cas d'anxiété.
Vous parlez de désorientation. On pourrait avoir la vision d'une humanité dépassée par ses propres réalisations techniques. Mais quel type d'humain et de société, si on arrive à une post-humanité ou à un transhumanisme, le transhumanisme risque-t-il de créer ?
Je crois pas à la thèse du dépassement déjà. Qui me paraît un peu spécieuse en plus. Enfin, ces dépassements, ça voudrait dire que, par exemple, si on relie Enders, Gunther Enders, c'est pas de dépassement dont il parle. Dépassement, ça voudrait dire qu'il y a une finalité déjà connue que vont atteindre avant nous nos réalisations. Et ça, je crois pas du tout à cette version théologique. Je pense plutôt à des phénomènes de disjonction brutale, quoi. À un moment donné, le monde structuré et organisé autour de certains de nos systèmes techniques se disjoint ou n'est plus du tout en phase, en prise, avec la réalité vécue. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des phénomènes de... Oui, c'est ça, je ne trouve pas d'autres mots, de disjonction soudaine. Et donc d'incompréhension derrière, pour ça je parlais de perte de repères. Il n'y a pas question là-dedans de dépassement du tout, quoi. De surcroît, dépassement, ça ne veut pas dire grand-chose dans le cas des systèmes techniques complexes qu'on utilise, puisqu'ils nécessitent, en fait, vous le savez, une forte présence humaine aussi, un entretien permanent, une maintenance de plus en plus coûteuse. Ce sont des systèmes extrêmement onéreux, aussi bien sur le plan financier qu'énergétique. Et donc ça ne nous dépasse pas du tout. Par contre, ce phénomène de disjonction peut être beaucoup plus inquiétant d'une certaine manière, parce que ça voudrait dire que, quelque part, les systèmes techniques ne nous parlent plus et nous ne les comprenons plus. Donc, Hannah Arendt a dit des choses très passionnantes là-dessus très tôt, il y a très longtemps. Elle dit que c'était les problèmes de la physique moderne qui entraient dans le monde commun. C'était ce qu'on était en train d'observer.
Est-ce qu'il y aurait justement des moyens pour éviter que les machines ne nous parlent plus et que nous arrivions toujours à les comprendre, pour empêcher ça?
Sans doute, ça repose quelque part sur une autre idée, ou une autre, donc un autre imaginaire aussi, des machines, de leur conception en tout cas, sur le plan de leur conception, donc très en amont là. Avec cette idée que ce qui est souhaitable, c'est pas forcément de rechercher des systèmes... parfait, j'aime pas trop, mais infaillible en tout cas, qui soit sinon autonome, parce qu'il n'y a pas d'autonomie de la technique, mais qui tende à l'autonomie. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut interroger. Peut-être ce qui est souhaitable, c'est justement de remettre en cause cette idée que un système technique devrait être le plus autonome possible, le plus apprenant possible. Ça va loin, parce que derrière ça, c'est la définition même qu'on donne de l'humain, de l'individu, de l'autonomie individuelle qui est en jeu, puisque les machines ne sont que la réfraction, enfin le reflet de l'idée qu'on se fait de l'humain, et de la société, ou des relations sociales. Je crois qu'il se passe des choses de ce côté-là, mais là aussi c'est plus intuitif que... Et même peut-être autour des questionnements sur la cobotique, sur justement cette robotique personnalisée ou personnelle d'assistance qui, au fond, ne marche pas. Enfin, si on travaillait beaucoup plus sur ces échecs, peut-être que... Ça se fait déjà d'ailleurs un peu. La prise en compte et la mesure de ces échecs peut nous permettre d'imaginer peut-être d'autres... type de machine. Bon, je reprendrai banalement certaines thèses de Simondon sur l'incomplétude ou des choses comme ça, des machines. Mais Simondon, il est très centré objet, donc ça m'embête un peu. Mais c'est cette idée-là, quoi, qu'une machine, on devrait chercher au contraire à la rendre imparfaite, quoi, pour pouvoir cohabiter ou coexister avec des êtres humains.
Je vais reprendre donc un passage de votre livre, donc coécrit avec Caroline Morico, dans la peau d'un pilote de chasse, le spleen de l'homme-machine. Donc, vous reprenez une citation où il est écrit « Il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas que les machines soient déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de leur donner naissance et de s'en servir. Et vous commentez « Dis-moi quelle machine de guerre tu utilises et je te dirai à quoi ressemble ton monde. » Ma question est de savoir pourquoi cette centralité de la machine de guerre et pourquoi pas d'autres technologies.
Centralité de la machine de guerre, vous parlez bien de l'ouvrage qui portait sur les pilotes de chasse. Donc on a travaillé spécifiquement sur des technologies de toute façon de guerre, des technologies militaires. Là, vous allez m'entraîner sur un terrain. Je suis en train de travailler là-dessus. Voilà. C'est un peu difficile de... Ce qui m'intéresse, moi, souvent, c'est l'acte de naissance des technologies qu'on utilise. Bon, là aussi, s'il n'y a pas d'origine attestable avec certitude, il ne s'agit pas de chercher des origines à telle ou telle technique. La technique, ça fonctionne beaucoup par sédimentation, par emprunt, par... D'ailleurs, Edgerton a bien montré, l'historien des techniques a bien montré que à une même époque cohabitent des techniques qui appartiennent à des mondes très hétérogènes. Donc vous avez cohabitation en fait en permanence de technologies très hétérogènes. La question sur la guerre m'intéressait parce que il me semble qu'un grand nombre des technologies qu'on utilise aujourd'hui se sont développées en tout cas dans un contexte de guerre. Et que, à mon sens, même lorsque les technologies s'émancipent de leur contexte de naissance, d'apparition, elles en gardent quelque chose des traces. Et je pense que c'est particulièrement vrai des technologies numériques. Et d'une partie de la réflexion en intelligence artificielle, vous le savez, du courant cybernétique. Alors, tout le monde sait que ce soit Turing qui travaillait sur Enigma, sur le cryptage des messages allemands, nazis, pour les sous-marins, ou Norbert Wiener qui travaillait sur les canons de défense antiaérienne, même von Neumann, tous les aspects neurologiques de ses travaux, je crois, renvoient à des recherches qui avaient été menées sur des mutilés de guerre. Tout ce contexte de naissance, je pense qu'il a laissé des marques, je dirais pas qu'elles sont indélébiles, mais en tout cas, il me semble important de les faire émerger, de les mettre en lumière, pour pouvoir, j'espère, les mettre à distance, quoi, tout simplement. Alors ARPANET, tout le monde sait qu'ARPANET, c'était un projet militaire. Mais avant ARPANET, sur la construction, l'architecture en réseau horizontal, il y a Grevesmühl, par exemple, le géographe, qui, lui, prétend que ça remonte déjà à l'effort de guerre de l'industrie militaire allemande, qui devait, pour échapper à la destruction totale, disséminer les unités de production, éclater les unités de production sur tout le territoire, au moment où les Alliés bombardaient massivement tous les centres industriels allemands. Donc il y a tous ces aspects-là qui me semblent importants à remettre ou mettre en lumière. Je ne sais pas si je réponds à votre question sur la guerre, parce que oui, c'est lorsque Turing travaille, et aujourd'hui ça revient finalement sous la forme de la cybersécurité, des cyberattaques, de la difficulté à déterminer les sources de l'information, la légitimité d'une information, déterminer la légitimité de l'information. Tout ça, ça vient des technologies évidemment qui sont nées du cryptage, donc dans le domaine militaire, mais aussi simultanément dans le domaine du renseignement. Et derrière ça, il y a, si on creuse un peu plus, il y a évidemment le rapport à l'altérité, alors j'introduis ce terme, qui est propre à l'état de guerre, qui est une relation quand même particulière, puisque c'est une relation paradoxale dans le sens où c'est une relation qui repose sur l'absence de relation possible, normale possible, de médiation. C'est lorsqu'il n'y a plus de médiation que ce type de technologie se met en place, comme c'est vrai aussi de la simulation informatique, des premiers simulateurs. C'est une relation devenue impossible, bloquée, et les technologies de guerre sont la réponse à ce type de rapport très spécifique à l'altérité. Et je pense qu'on retrouve ça aujourd'hui dans la diffusion d'un certain nombre de ces technologies dans la vie quotidienne et civile, cette fois. Ce sont des pistes de réflexion que je propose, mais avec cet état, effectivement, qu'on observe aujourd'hui, peut-être de suspicion, de défiance, d'inversion du vrai et du faux.
Vous dites ce que d'autres ont pu déjà dire aussi par avant, c'est que en regardant les évolutions dans le domaine militaire, on voit ce qui arrivera dans la société par la suite.
Je pense qu'il n'y a pas de déterminisme, là. Ça n'arrivera pas forcément. Mais en tout cas, il y a des éléments qui sont peut-être inhérents à la conception même de technologies, qui sont parfois là en germe, qui vont se déployer ou pas. Après, dans quel contexte ça se déploie ou pas, je n'en sais rien. Personne ne peut le prédire et le prévoir, ni en déterminer avec précision le contexte. Mais voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas dans le sens d'un encore une fois, je pense pas qu'il y ait de déterminisme. Et en même temps, j'ai pas évoqué ici la structuration aussi de nos technologies autour des macro-systèmes techniques, mais là aussi c'est un phénomène, je dirais, récurrent depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on observe toujours ces mouvements de recentralisation, de reconcentration de la puissance technologique au nœud de communication du système. C'est ce que j'explique à mes étudiants. On parle beaucoup de réseau, parce que ça, évidemment, le réseau, comme avec Internet, avec ARPANET à l'origine, ça évoque une horizontalité. Mais c'est une horizontalité qui n'exclut pas le contrôle dès lors qu'on introduit la notion de macro-système technique, qui est en fait le mode de structuration de nos sociétés, et dont le modèle est représenté par les chemins de fer, là, le système ferroviaire. C'est-à-dire effectivement avec des routes tracées et surtout des nœuds de communication vers lesquels convergent les informations et partent les ordres, et à partir de laquelle on doit avoir une vision panoptique de tous les mouvements, de toutes les entités qui se déplacent sur le réseau. Réseau plus contrôle, en fait.
Vous voulez dire qu'en fait, là où on promet de l'horizontalité, il y a forcément à la naissance de cette horizontalité une verticalité, une centralisation.
Pas forcément, mais en tout cas, c'est comme lorsqu'on nous parle de transparence ou d'horizontalité, il faut tout de suite se poser de la question de savoir où est passé le pouvoir, et pas avaler tout ce qu'on nous raconte, toutes les jolies historiettes ou les storytelling qu'on nous raconte autour de ces architectures qui peuvent être effectivement à un certain niveau tout à fait horizontales, mais qui n'excluent pas nécessairement ou pas forcément ce que vous appelez vous une verticalité, qui n'est pas forcément une verticalité spatiale, mais en tout cas des points de reconcentration du pouvoir, plus ou moins opaques. Plus ou moins apparent. Encore une fois, si vous réfléchissez au système ferroviaire ou au système de la navigation aérienne, aéronautique, qui fonctionne sur le même modèle, avec des centres de contrôle aérien, des contrôleurs aériens, qu'on appelait autrefois les aiguilleurs du ciel, parce que le modèle est le même que celui des aiguilleurs du réseau ferroviaire, vous retrouvez le même dispositif avec les technologies maintenant de communication et d'information, avec Internet, avec les grands opérateurs, bon évidemment les GAFAM, dont on parle beaucoup. On était parti au départ dans les années 60 avec cette idée que l'horizontalité permettrait justement une organisation assez démocratique de la société, avec une distribution plus égalitaire, comme vous le savez, du pouvoir. Et par rapport à cette utopie qui était incarnée aussi beaucoup par le PC, le personal computer, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand même une reconcentration massive, une recentralisation massive des capacités de gestion et de contrôle de ces systèmes. Bon, je crois que ça, c'est indéniable. Enfin, plus personne ne peut nier. Même, on voit actuellement autour des négociations entre l'Europe et les GAFAM qu'on voit bien qui a la main. Hein. L'Allemagne elle-même est en train de reculer sur les propositions qui auraient visé à taxer davantage Google.
J'aimerais qu'on ressente un petit peu sur le transhumanisme. Vous, en tant que professeur de sociologie, qu'est-ce que les sciences humaines et sociales pourraient nous dire du transhumanisme, et peut-être qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas nous dire ? Quelles sont ses limites à ces sciences humaines ?
Alors, les philosophes, certainement, ont des choses à dire. Ils ont toujours des choses à dire, les philosophes. Les sociologues s'emparent assez peu de la question, quand même. Un grand nombre, malheureusement, de chercheurs en sciences humaines sont passés du côté de l'accompagnement aux nouvelles technologies et de la R&D. Donc ils ont, moi j'estime un peu, quelque part, vendu leur âme, c'est-à-dire en perdant la capacité à développer une vraie distance critique, une vraie distance tout court, d'ailleurs, à leur objet. Ça, c'est très dommageable. Maintenant, vous avez des labels SHS pour les nouvelles technologies à destination des divers comités d'éthique qui se développent un peu partout pour valider, légitimer sur le plan des sciences humaines un certain nombre d'innovations, parce qu'on est plutôt dans l'innovation et la R&D, hein, l'applicatif. Je pense que de ce côté-là, ces sociologies-là n'ont pas grand-chose à dire du transhumanisme. Est-ce que l'anthropologie religieuse aurait sans doute des choses à dire sur le transhumanisme, mais là, il faudrait voir ce qui est fait de ce côté-là. J'ai pas été creusé. Je pense qu'il y a certainement des anthropologues du religieux qui s'intéressent au phénomène transhumain, évidemment, puisque derrière ça, il y a toute une réflexion sur, évidemment, comme la mort, l'éternité intemporée. On pourrait retrouver des éléments de millénarisme. Enfin, il y a sans doute beaucoup à creuser aussi de ce côté-là, l'anthropologie religieuse.
Je reprends donc ce qui est écrit sur la quatrième couverture de votre livre sur le pilote de chasse. L'hybridation des hommes et des machines est le plus souvent abordée sous un angle technologique et à la seule lumière de critères de performance. La parole est ici donnée à ceux qui habitent les machines. Donc vous avez choisi une enquête, la méthode d'une enquête de terrain. Est-ce que c'est parce que, à votre avis, la parole de ceux dont les vies sont transformées par les évolutions technologiques n'est pas assez diffusée, écoutée? Est-ce que justement les sciences humaines, sur ce point, et la sociologie jouent son rôle?
Ah oui, certainement. Dans ce sens-là, oui. Je reprends votre question précédente. Oui. Dans ce sens-là, effectivement, si les sciences humaines peuvent se penser comme, non pas les porte-parole, parce qu'il est très prétentieux de parler à la place d'eux, mais en tout cas jouer le rôle un petit peu de témoin et rendre public un certain nombre d'expériences qui, par absence justement de canal de médiation, ne peuvent pas atteindre un public plus large. Oui, ça, je crois que c'est le rôle, c'est même la principale mission, je dirais, des sciences humaines et sociales, c'est de témoigner d'expériences en cours, de dynamiques, y compris souterraines, témoins pour laisser des traces aussi, des traces qu'on va peut-être pas s'approprier tout de suite, mais qui seront peut-être des points de repère ultérieurement et qui seront des traces intéressantes en tout cas pour les générations à venir, parce qu'elles interrogeront leur futur présent et qu'elles feront retour sur un passé plus ou moins récent. Donc ça, je crois, oui, ce rôle-là, il est fondamental. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les militaires. Alors, les pilotes de chasse, c'est d'autant plus intéressant qu'ils sont toujours présentés finalement comme la pointe avancée de la recherche technologique, des technologies de pointe. Ils sont presque présentés parfois comme les vrais cyborgs, la preuve vivante d'une hybridation possible des hommes et des machines. En tout cas, des systèmes complexes actuels et des humains, et des êtres humains. Donc on a essayé d'aller voir ce qui se passait d'un peu plus près.
Est-ce qu'il n'y a pas, in fine, un accaparement du discours sur le développement technologique et le transhumanisme, du marketing, qui définit a priori ce que sera cette technologie, l'avenir, et d'un manque critique a posteriori de ce que les technologies sont finalement et ce que le transhumanisme est finalement?
Oui, oui, tout à fait. Le marketing, il a un rôle d'accompagnement de la R&D, de familiarisation du grand public vis-à-vis d'un certain nombre de recherches industrielles et technologiques en cours. Donc, il vise à familiariser par le discours, à essayer de démontrer en quelque sorte aussi une innocuité de tout ça. Il est capable aussi d'assimiler, d'intégrer, de recycler un certain nombre de critiques, ce marketing. C'est ce qui le rend particulièrement déroutant, c'est ce qui fait qu'on a assez peu de prise sur lui. Et je crois que les seules prises qu'on peut avoir sur ces discours-là, qui sont très bien faits par des professionnels souvent très doués, très qualifiés, qui ont des compétences d'ailleurs en sciences humaines assez étendues pour les meilleurs d'entre eux, je pense que la seule façon de contrer ça, c'est précisément de ne pas opposer un autre discours, ou un métadiscours plutôt. C'est de partir, comme le propose la démarche socio-anthropologique que je défends avec d'autres, c'est de faire remonter des paroles, des expériences vécues et des paroles vivantes, quoi, qui parlent de choses sensibles. Ça, c'est beaucoup plus difficile à intégrer dans le discours marketing. C'est beaucoup plus difficile à contrer, parce qu'il y a toujours quand même, quoi qu'on en dise, il y a toujours une légitimité de l'expérience vécue. Ça, c'est incontestable. Moi, c'est plutôt ma démarche. Plutôt que d'opposer un discours à un discours, c'est essayer de recueillir des témoignages et de les faire remonter à la surface et de les valoriser. Voilà.
Et pourquoi, selon vous, opposer un discours ou un métadiscours, vous dites, et pas une stratégie forcément porteuse ?
C'est qu'une stratégie porteuse, ça me fait penser au marketing, ça, les stratégies porteuses.
Il y a d'avoir une charge critique pour essayer de déconstruire un petit peu ce qu'est le transhumanisme. Y opposer un discours n'est pas chose forcément efficace pour vous. Pourquoi ?
Bien sûr, vous avez raison. C'est pas incompatible, ça devrait être complémentaire. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il est beaucoup plus difficile de faire remonter l'expérience vécue et sensible. Il y a de moins en moins de place pour ça. On est de moins en moins prêt à recevoir les nuances, les ambivalences. Parce que dès qu'on touche évidemment aux réalités humaines, sociales, on est dans des ambivalences, sinon des ambiguïtés. On est dans des contradictions, tout le temps. On est dans du clair-obscur. On est dans des zones grises. Et je crois que l'hypermédiatisation à laquelle on assiste actuellement, avec une recherche d'hypervisibilité, est peu en mesure d'accueillir ça, d'accueillir ce clair-obscur. On est vraiment dans une surexposition, hein, au sens vraiment presque du cinéma, surexposition lumineuse. Les projecteurs sont de plus en plus puissants et font disparaître toutes les traces ou les zones d'ombre. Là, il y a de très beaux textes là-dessus de Didier Huberman, que je recommande. Sur ces... Donc l'objectif, s'il y en avait un du côté de la socio-anthropologie, c'est de requalifier, revaloriser les zones d'ombre et les nuances, c'est-à-dire redonner une place aux nuances.
Vous êtes sociologue dans une école de management notamment. Comment le management pourrait se nourrir et se transformer grâce aux évolutions du transhumanisme ?
Actuellement, en management, les agences d'accréditation, qui sont surtout nord-américaines, les écoles de commerce, imposent un enseignement en développement durable, en RSE, responsabilité sociale d'entreprise, et en éthique. Donc ce qu'on enseigne soi-disant aux managers aujourd'hui, c'est de développer une distance critique vis-à-vis de discours tels que ceux du transhumanisme.
Ça se limite à une approche critique du transhumanisme dans le management ?
À mon sens, tout ça reste assez décoratif. Il n'empêche, ça va éveiller un certain nombre de questionnements, de doutes, probablement. Donc là aussi, il n'y a pas de déterminisme. Après, il faudrait voir les liens plus directs entre certaines théories, concepts ou notions managériales et le transhumanisme. Le transhumanisme s'inscrit quand même dans une perspective qui est la même perspective que celle du management, qui est la recherche d'efficacité, de productivité. On est vraiment dans l'amélioration des performances et dans l'élimination, même si on ne le dit pas comme ça, l'élimination de tout ce qui pourrait entraver ou faire obstacle à cette augmentation perçue comme infinie des performances.
Justement, est-ce que là, le management ne voit pas le transhumanisme comme une opportunité qui s'est peut-être jamais présentée auparavant ?
Je ne peux pas répondre à cette question. Si je pars de mon expérience en école de management, c'est pas... Non. C'est un peu tôt pour dire ça ou c'est... Ce n'est pas des questions qui se posent pour l'instant.